Eh bien, bonsoir pour cette dernière table ronde autour des femmes et des figures féminines en Argentine et dans la littérature argentine. Je vais essayer de vous présenter rapidement tous nos invités en vous parlant également, en présentant un petit peu leur dernier livre. Bon, compte tenu du nombre, on est nombreux, donc je pense que ce sera assez difficile de s'attacher à chaque livre, chacun de ces livres étant suffisamment riche pour nécessiter au moins une heure de débat. Donc on les abordera, mais on va rester autour du thème donc, des femmes et de l'exil. Alors d'abord, Clara Obligado, qui vit en Espagne depuis 1976, donc vous êtes une écrivaine de l'exil, là, vraiment. Je crois qu'il n'y a pas encore de livre traduit en français, mais alors moi j'ai pu lire donc votre livre « Mujeres a contracorriente », qui sont des petites biographies de femmes très célèbres ou pas du tout, ou beaucoup moins connues, que vous avez choisies parce qu'elles avaient des destins étranges ou parce que vous vous sentiez des affinités avec elles. Il y a des mères, des femmes fortes, des moins fortes, des criminelles, des amantes, des artistes. C'est un kaléidoscope de l'histoire féminine occidentale, en fait, de Sappho en passant par Éléonore d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, jusqu'à Coco Chanel et même Eva Braun. Il n'y a pas Eva Perón, donc ça, on verra. Et bien, vous nous expliquerez donc pourquoi. Elsa Osorio, donc, vous êtes née à Buenos Aires, vous vivez à Madrid toujours. Donc votre dernier livre publié aux éditions Métellier, c'est Luz ou le temps sauvage. C'est un très beau roman autour de thèmes qui vous sont chers, qui est la recherche, enfin la mémoire et puis la recherche des, la quête des racines. Alors Luz est une jeune femme qui a des doutes sur ses origines. Elle enquête et puis finit par découvrir le secret de sa naissance. Elle est née en 1975. À cette époque-là, sa mère était une détenue politique et que l'on a fait accoucher en prison. Et comme ça se faisait beaucoup à l'époque, je crois, on a tué la mère et on a donné le bébé à la fille d'un tortionnaire. Et donc, Luz, à la recherche de ses racines, on suit toute sa vie, tout le déroulé de sa vie. Alicia Dujovne Ortiz, ça se prononce comme ça, hein ? Donc pour Anita, qui est publiée chez Grasset, donc vous êtes aussi de Buenos Aires, et vous vivez en France ?
Oui, depuis presque 30 ans.
Alors là, votre livre, c'est complètement différent, ça s'appelle Anita, et c'est un livre sur la compagne de Garibaldi. Donc on est en 1839, Garibaldi a dû fuir l'Italie où sa tête est mise à prix, et il arrive au Brésil, où il participe à une autre révolution, il y a des révolutionnaires nés comme ça, donc il arrive au Brésil et autre révolution qui s'appelle la révolution des Pouilleux, et c'est là qu'il rencontre la jeune Anita qui va le suivre au combat. C'est une femme qui va s'avérer beaucoup plus guerrière que mère, et elle mourra avant Garibaldi alors qu'elle est quand même beaucoup plus jeune que lui. Lui est totalement inconsolable et il va raconter sa vie à une autre femme de légende qu'il rencontre à ce moment-là, qui est une vieille dame, qui est Manuela Sáenz, qui est la compagne de Bolivar. Mempo Giardinelli, notre seul homme de cette table très féminine. Mempo est né à la frontière paraguayenne. Il était exilé au Mexique, donc comme beaucoup d'Argentins, on le retrouve dans tous vos livres, il y a une partie de l'exil qui se déroule beaucoup, souvent au Mexique et en France. Donc Mempo s'est exilé au Mexique de 76 à 85, où là il rentre en Argentine. Alors son livre « Les morts sont seuls », c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle José Di Pepe, qui est exilé au Mexique justement, et qui un jour reçoit un coup de téléphone, et son ancien amour, la femme de sa vie, mais qu'il a quittée, et elle aussi exilée au Mexique, demande son aide. Alors là il s'envole, et en fait il se rend compte que le compagnon de Carmen vient d'être assassiné, et donc le livre c'est l'enquête de Pepe et la reconquête aussi enfin il essaie au début de reconquérir Carmen, mais je vous en dis pas plus parce qu'après c'est un petit peu trop défloré le livre. Tununa Mercado, pour Mémoire Argentine, chez Sabine Vespizer. Donc vous êtes née à Cordoba. Vous êtes rentrée en Argentine après 16 ans d'exil en France, à Besançon. C'est ça, non ?
Non, ce n'est pas ça. J'étais 15 ans au Mexique.
D'accord.
Et avant, j'ai vécu à Besançon pendant 3 ans.
D'accord. Et là, donc, vous avez écrit des récits, ces récits qui est donc Mémoire argentine, hein, ce sont des récits de l'exil, et que vous avez écrit d'ailleurs en 86, une fois rentré en Argentine.
Oui, c'est ça.
Et donc, l'urgence, c'est une fois rentré que vous l'avez senti, et pas moment où vous étiez en exil. Alors, on va commencer par Mempo, parce que nous sommes toutes galantes, et comme c'est le seul homme de cette table, et ben, c'est lui qui va commencer. Déjà, une question assez globale sur, puisque cette table ronde est articulée autour des femmes, est-ce qu'il y a de grandes figures féminines en Argentine qui ont marqué votre vie d'homme avant de marquer votre vie d'écrivain ?
Bueno, yo quiero aclarar que estoy aquí en carácter de mujer honoraria. En 1998, el Congreso Internacional de Escritoras de Rosario, que convoca a todos los años Angélica Grodischer, me hizo el honor de declararme mujer honoraria. Esto no es broma, es de todos los premios que tengo, es uno de los que yo más aprecio. Y creo que tiene que ver no por condiciones personales, sino por la literatura. Porque cuando fundé con un grupo de escritoras amigas la revista Puro Cuento en el año 85, comenzamos a hacer los primeros congresos de mujeres y escritura, de donde salió un libro estupendo que se titula Mujeres y Escritura. En esos años desarrollamos, y el mérito fue de muchas de estas amigas, Lea Fletcher, Silvia Itkin, Ana María Shua, Angélica, que alrededor de la posibilidad que nos daba la revista, desarrollaron, y fue una política de esa revista durante los casi 7 años que duró, que en una literatura tan masculina, tan machista, como era obviamente la que salía de la dictadura, nos impusimos que todos los números de la revista tenían que tener una equivalencia de género, no en cuanto a la exactitud numérica, que era un tema que se discutía mucho en Argentina en aquel entonces y que tuvo un reflejo parlamentario, sino para, digamos, dar un espacio que históricamente se había ido negando.
Alors, je voudrais dire tout de suite que je siège ici en tant que femme honoraire. Et ce n'est pas du tout une plaisanterie, parce qu'au congrès des femmes écrivains de Rosario en 1998, on m'a décerné ce titre et j'en suis extrêmement fière. C'est celui qui m'a fait le plus plaisir dans toute ma carrière. Mais en fait, je ne le dois pas à mes mérites personnels, mais bien à la littérature. Car quand j'ai commencé à lancer l'aventure de Puro Cuento, une revue qui se spécialise donc dans les contes et les nouvelles, avec beaucoup d'amis écrivaines, eh bien, nous avons lancé un premier congrès sur les femmes et l'écriture. Il en est sorti d'ailleurs un très beau livre qui porte justement ce titre. Et donc, c'est avec des femmes qui écrivaient que j'ai entrepris cette aventure de la revue qui a duré 7 ans. Et c'était une revue qui tranchait évidemment dans le contexte de la littérature très marquée par des machistes et des hommes pendant toute la dictature. Et dans cette revue, au contraire, nous avons voulu établir la plus rigoureuse parité. Je ne parle pas d'une parité numérique qui était fort discutée en Argentine. Il y a même eu un projet au Parlement à cet égard. Mais je parle plutôt de la parité en termes d'équivalence d'espace.
Eso me permitió tener un conocimiento y una cercanía de esa escritura de la otra mitad del mundo y del país que nos estábamos perdiendo los varones. Durante muchos años esto cambió mi propia escritura. De hecho, aunque se están publicando en Francia estos libros míos que son anteriores, mis dos novelas más reconocidas y más ambiciosas son mis novelas femeninas. La última, Visita después de hora, que espero que salga aquí en Francia este año, y la anterior, Santo Oficio de la Memoria. Este ejercicio de la escritura para mí ha sido un desafío vital. Estimo que me permitió acercarme desde mis partes femeninas a una escritura que yo admiro profundamente, entre la que están mis amigas aquí presentes, pero también autoras que son hermanas en la vida, como es el caso de Angélica, Anishu, Liliana Hecker, y toda una escritura en mi país que yo creo que es quizá lo más pujante que tenemos actualmente. Y así que mi respuesta es que sí, que tenemos un extraordinario vigor, porque como siempre dice Angélica, y la voy a citar de nuevo y comparto eso, nosotras ya sabemos lo que escriben los hombres. Ahora se trata de descubrir cuál es la otra parte. Y yo realmente siento, como lo digo incluso como escritora, porque trato de no escribir como si fuera una mujer, sino que trato de escribir siendo mujer, sintiéndome mujer. Soy padre de 3 hijas, además tengo una nieta. Y la vida del mundo femenino ha sido y es absolutamente mi fascinación. Y entonces, ese trabajo creo que realmente el más grande aporte, creo que es revolucionario para la literatura argentina. De hecho, y con esto termino, si uno mira la literatura argentina de la dictadura para aquí, o de la democracia para aquí, y hacia atrás, el cambio más notable, lo más fuerte en lo estético, en el estilo, en las búsquedas, en el cuerpo, en lo sentimental, en la sensibilidad, en todo, es la irrupción de la mujer. Yo creo que ese es el factor más importante que tiene la literatura argentina.
Donc, je peux dire que je connais bien les femmes, je connais cette autre moitié du monde, ce pays qui est perdu pour nous, les hommes. Et mon écriture s'en est beaucoup ressentie. Alors, les livres dont on a parlé ici, ce sont des livres que j'ai écrits il y a un petit peu plus... Enfin, relativement... qui ont été traduits relativement récemment, mais j'ai des livres plus anciens, non encore traduits, et qui parlent plus des femmes, qui sont construits autour des femmes. En fait, c'est véritablement pour moi un défi vital. Ma partie féminine me permet d'approcher cette réalité que j'admire beaucoup. C'est toute une écriture féminine qui est très, très forte et qui avance... avec beaucoup de rigueur. Et mon amie Angélica me dit toujours, et très justement, nous savons ce que pensent les hommes, et c'est vrai que c'est une grande supériorité. Alors moi, j'essaye d'écrire, non pas en pensant aux femmes, mais en me sentant femme, en ressentant ma condition de femme. D'ailleurs, j'ai 3 filles, donc je suis très, très proche de la réalité féminine qui me fascine beaucoup. Et je pense que le travail d'écriture des femmes est une véritable révolution dans la littérature argentine. On peut dire que depuis la démocratie, elles nous ont donné de grandes leçons de sensibilité, de style, d'esthétique, de rapport au corps, et j'en passe.
Alors, Alicia, justement, avec ce personnage d'Anita Comempo, dit que, sa compagne lui dit que nous, les femmes, nous savons ce que pensent les hommes et pas le contraire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Oui, j'ai écrit ces romans justement à partir des femmes. Ce n'est pas l'histoire de Garibaldi, c'est la vision de Garibaldi à travers une métisse du Sud, la vision qu'elle peut avoir sur ce Italien flamboyant, plein de couleurs extraordinaires, avec une barbe rousse, des cheveux blonds, et qui était pour elle une espèce de fantaisie masculine incarnée. Je vois l'histoire à travers le regard à la fois fasciné et critique d'une femme du Sud, et aussi à travers de celui de Manuela Sáenz, qui fut la compagne de Bolívar, à qui Garibaldi raconte l'histoire d'Anita quand elle vient de mourir. Mais je suis peut-être par commodité ou par paresse de ce côté de l'humanité, du côté des femmes, et non pas parce que j'ai entrepris une campagne volontaire, non pas parce que je me sois dit, bon, alors je vais parler de Eva Perón et après de Dora Maar, qui fut la maîtresse de Picasso, et d'Anita Garibaldi. Je vais parler des personnages de l'histoire, je vais faire des biographies des femmes parce que j'entreprends une campagne dans ce sens. Tout simplement, je comprends mieux les femmes. Quand j'ai essayé de comprendre Eva Perón, il m'a été difficile de comprendre sa passion du pouvoir. Je connais d'autres passions, mais pas celle-là. Et j'ai dû trouver des échos de sa passion du pouvoir à moi, et ça a été un effort. Alors que comprendre la relation d'Eva Perón à Perón, qui était, elle, étant une passionnée, fanatique, capable d'aller au bout d'elle-même, et obligée de tricher de sa condition marginale face à un séducteur froid, machiavélique, ambigu, qui ne montrait jamais, qui n'ouvrait jamais le jeu, je sais ce que c'était que cette relation, donc je n'ai pas besoin de m'efforcer. Mais s'il y a un lien entre tous mes personnages, il y a aussi des personnages masculins, Gardel, Carlos Gardel, Toulouse-Lautrec, qui était l'amant d'une autre de mes héroïnes féminines, Mireille, la prostituée de Femme Couleur Tango, qui est amie de Toulouse-Lautrec et qui a fini dans un bordel de Buenos Aires. Tous ces personnages masculins et féminins, surtout féminins, je dis par commodité, ont un lien qui n'est pas celui du sexe, mais qui est celui de la marginalité. Ils partagent tous le fait d'être des personnes avec une identité incertaine, tant nationale que sociale. Eva Perón avec sa double appartenance sociale, la prostituée française qui va à Buenos Aires. Il s'agit dans tous les cas d'exilés. Et dans certains cas, comme dans mes premiers romans, il y a une femme d'un quartier de Buenos Aires, Pauline, qui n'est pas exilée, mais qui a des extases dans la vie quotidienne. Et c'est une manière de s'envoler de la terre, de s'exiler, que l'extase. Donc, ce qu'ils partagent tous, mes personnages, c'est le fait d'être en même temps dans plusieurs endroits et de ne pas savoir exactement quelle est leur terre.
Clara, je voulais justement, parce qu'en parlant, quand on entend parler Alicia, les femmes que vous choisissez, quand vous parlez de cette marginalité, en fait, les femmes que vous avez choisies, et de fait, à partir du moment où une femme, enfin surtout, on commence quand même à Sappho, hein, pour arriver jusqu'au XXe siècle, à partir du moment où elle atteint la notoriété, parce qu'il y a beaucoup de femmes de l'ombre aussi dont vous parlez, il y a fatalement une marginalité par rapport au chemin parcouru par les hommes qui sont peut-être beaucoup plus traditionnels parce que normaux, parce qu'acceptés par la société, même plébiscités par la société. Toutes ces femmes, pour arriver à une mise en lumière, ont une vraie marginalité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais les chemins qu'elles traversent sont beaucoup plus intéressants, certainement en plus en termes de matière littéraire, dans la mesure où ce sont quand même des chemins de traverse.
Et je parle mal le français. Et alors, je vais essayer de répondre dans mes peu de paroles que j'ai. Et en premier moment, et lieu, je veux dire à Mempo Jardinel que la première fois que j'ai publié un texte, je l'ai publié en Puro Cuento, que c'est la revue que j'ai pris contact avec lui. Et il a publié des textes de femmes, c'est vrai. Et je voulais lui dire une autre chose, que le genre, ce n'est pas seulement féminin. J'étais à l'Argentine dans le mois d'août, et je vois dans l'une des bibliothèques, et genre, et ce sont seulement des femmes. C'est les hommes n'ont pas de genre. Je suis réellement intéressée au point des femmes en relation à l'inexistence, justement, des femmes. Et je pense la question est à partir de l'exil. Je pense que l'exil de ma génération et le problème des femmes est très similaire. Et alors, quand tu considères que c'est bien ça, j'ai peut-être
un petit texte pour le lire. Oui, vous avez un petit texte, bien sûr, bien maintenant. Sûr, donc autour, oui, bien sûr.
Et je vous demande votre piété parce que je pense que vous condamnez à mon exposition. On sait, franc-cognol que je parle serait terrible pour vous. Et alors, j'ai fait des petites réflexions que je vais lire. Et si vous vous ennuyez, vous me coupez, ça va. Contrairement à l'exil républicain espagnol, vous pensez que je viens d'Espagne. C'est une problématique un peu différente. Mes romans ne sont pas traduits au français, alors je veux parler de ma génération, pas de moi-même. L'exil argentin n'est pas été un mouvement déclenché par les forces politiques en deux routes, mais plutôt une direction prise de manière assez chaotique par les militants dont la vie était menacée sur le territoire. Pour illustrer la complexité du phénomène, on peut citer le fait que dans certaines organisations, les militants de bas qui avaient fui dans le soutien de leurs dirigeants étaient considérés comme des déserteurs ou des traîtres.
Ainsi, le désordre, le sentiment de culpabilité d'avoir survécu, la confusion furent l'une des premières sensations de l'exil. Une sensation qui, au fil du temps, a influencé de manière décisive la façon dont les faits ont été racontés. Vécu en même temps comme une punition et une salvation, l'exil argentin a été paradoxal. La victime s'est convertie en bourreau, la douleur de l'éloignement du pays en privilège. L'exilé a non seulement souffert de ne pas être accepté dans le pays d'accueil, on doit penser qu'en Espagne, il n'y a pas de loi pour les réfugiés, mais aussi de ne pas être accepté dans le pays d'origine. Dans ce dernier, on a tendance à contourner le problème ou à rassasser le terme d'exil doré, créé de toutes pièces par les répresseurs. Le terme même d'exilé est imprécis quand on parle de l'Argentine. Si déjà à Rome, on laissait aux fuyards le choix de l'exil ou de la mort, rapprochant ainsi la douleur de deux supplices, dans le cas d'Argentine, une série d'adjectifs explicites de manière remarquable la manque de clarté qui concerne ce phénomène. Il existe le terme exil doré, ainsi nommé par les répresseurs, l'exil interne, un authentique oxymoron, et l'exil qui n'a pas grand-chose à voir avec cette violence politique. Si l'exil est le terme utilisé n'importe en quelle situation, alors il perd tout son sens. Édouard Saïd, qui habitait à Paris beaucoup du temps, écrivait « S'il est certain que toute personne à qui l'on empêche de retourner dans un endroit est un exilé, on peut établir quelques distinctions entre exilés, réfugiés, expatriés et immigrés. L'exil est né de l'ancienne pratique du bannissement. Une fois banni, l'exilé vit une existence anormale stigmatisée par le fait d'être étranger. Le terme « réfugié », en revanche, est une invention du XXe siècle. Le mot « réfugié » s'est converti en un terme politique qui fait penser aux grandes masses de personnes innocentes et déconcertées qui requièrent une aide internationale. Alors que « exilé » comporte, je pense, une touche de solitude et de spiritualité. Les expatriés vivent volontairement dans un pays étranger, normalement pour des raisons personnelles ou sociales. Ils peuvent partager la solitude et le bannissement de l'exilé, mais ne souffrent pas ces strictes proscriptions de ce dernier. Les émigrés jouissent d'une condition ambiguë. Techniquement, un émigré est celui qui émigre vers un pays nouveau. Dans ce cas, la possibilité de choisir, est évidente. L'exil n'est en aucun cas une question de choix. Et je pense qu'on peut parler de l'exil en sens métaphore, de l'écriture comme exil, mais l'exil politique, c'est l'exil politique, ce n'est pas une autre chose. Ces conditions, ajoutées à la difficulté de survivre sur une terre étrangère, ont influé de manière décisive sur la rareté des textes contemporains au fait. Oui, il y a une littérature d'écrivains de l'exil, mais il existe aussi celle de ceux qui sont devenus écrivains durant l'exil et qui ont tardé des années pour se faire une place. Pour la génération des militants qui avaient plus ou moins 20 ou 25 ans et la génération qui a né à partir de 1950, plus ou moins, et quand elle a dû partir, dire l'exil, le rencontrer est probablement une tâche différée et ardue. Les textes correspondants tardent parfois des décennies à apparaître. De fait, pour la génération que je représente, on pourrait dire que la narration de l'exil est apparue en différé. De par notre âge, nous n'étions pas encore des intellectuels formés et nous nous sommes fondus en Espagne dans la démocratie naissante. Il manque une étude à ce sujet. Ainsi, dans l'étude des écrivains de l'exil, comme dans celle de l'exil en général, il existe des grandes lacunes et des grandes généralisations. Il y a autant d'exil que d'exilés, et en tous les cas est marqué par une forte subjectivité. Mais de manière générale, on peut dire que l'avenir incertain de l'exilé et son contact avec d'autres déplacés, d'autres réalités, d'autres traditions littéraires provoque une modification de son identité qui rend difficile sa place dans le discours de la littérature nationale, dans laquelle il apparaît comme une authentique déplacée. L'exil n'est pas national. Aucun pays ne finit par le reconnaître comme sien. Et souvent, ils se sont habitants des deux lieux à la fois, de plusieurs ou d'aucun. Et tout contact avec son pays d'origine se convertit d'une certaine manière en conflit. De notre côté, on pourrait souligner que les écrivains et écrivaines diasporiques, hors de chez eux, excentrés, nomades, instables, mondialisés, transnationales, ou quelle que soit la manière dont on les nomme, sont acculés à une vision du monde que nous pourrions appeler en contrepoint, étant donné que tout ce qu'ils voient, d'une certaine manière, est comparé avec le pays distant et finit par marquer tous les niveaux du texte. Il appartient ainsi à un monde mouvant et provisoire dont les frontières ne sont pas celles de la patrie, d'aucune des deux, ni de la patrie d'origine, ni de celle qui les a reçues. C'est pour un espace qui semble toujours étranger et qui, d'une certaine manière, souffre d'une double tension, celle d'envier ceux qui sont dans une appartenance fixe et celle de mépriser ceux qui ne comprennent pas l'importance du voyage. D'une certaine manière, dans ce monde au calendrier différent, le vrai locus est la mobilité, le manque de frontières. Et si cette position est inconfortable, il arrive un moment où nous ne pourrions nous sentir bien autrement. Nous avons dans cette perspective au moins deux tendances, celle de nous pencher sur le passé en essayant de paraître nationaux ou celle de nous pencher sur le pays d'accueil en revêtant un douloureux travestissement. Au milieu, on pourrait signaler un espace où les frontières se sont effacées. Et bien qu'on se sent plus libre, plus perméable, on ignore, dans une certaine mesure, depuis où ou pour qui on écrit. Mais c'est de cette position inconfortable que l'écriture puisse sa véritable énergie.
Merci. Quand on vous entend parler de l'exil comme ça, alors on a bien compris, on met l'exil politique à part, mais finalement, les femmes dont vous parlez sont des exilées par rapport à chaque fois, par rapport au système et à la société dans laquelle elles vivent.
Et je veux nommer certains écrivaines, par exemple, j'ai pris des notes parce que j'oublie tout, non? Par exemple, Susana Constante, Sara Rosenberg, Ana Basualdo, Cristina Sescar, qui est traduite en ce moment en Espagne. Je pense qu'il y a une... ce que je voulais dire, c'est que la manière de voir l'exil de la dictature, en certaine façon, a triomphé. Parce qu'on voit l'exil comme une question générale qui appartient à tout le monde et n'appartient à personne.
C'est-à-dire qu'on le dépolitise complètement.
Et si on dit qu'un migrant est un exilé, oui, on le dépolitise totalement. Je pense que la mémoire, c'est important. Ce n'est pas pour parler de ma génération comme une génération meilleure ou pire. Et je pense que pour oublier, il faut... comment ça s'appelle, recordar?
Se souvenir.
Souvenir. Non, je pense qu'il faut nommer toutes ces choses. Et à partir de ça, on peut parler de genre, de ce qu'on voulait. Mais ma génération, les personnes qui ont habité en Espagne, n'existent pas dans la littérature argentine et ni presque l'espagnol.
Alors, ce que vous disiez aussi sur le fait que quand on est en exil, c'est peut-être pas forcément là qu'on écrit, on a peut-être besoin du recul. Ça, on le voit avec votre texte, Tununa Mercado, donc c'est Mémoire argentine, où vous, donc un texte que vous avez écrit, pas en exil, mais ce sont des souvenirs d'exil, mais au moment où vous êtes rentré en Argentine. J'ai juste le début du deuxième texte, qui est un très beau texte sur l'exil. Le titre, c'est « Le froid qui n'arrive pas ». L'exil remonte en moi comme une immense fresque de Rivera, remplie d'une foule de protagonistes et de figurants, de chefs et de bouffons, de malades et de dépossédés, de corrompus et de corrodés. Cette fresque a une épaisse couleur de plomb et ses traits sont grossiers. Le souvenir a un goût fade. J'essaie dans ces moments-là de dégager de l'ensemble un instant de bonheur collectif, car il y en a eu. Peine perdue, la mélancolie a déjà pris les devants. Rien ne se soustrait à la mélancolie d'un souvenir gris, aussi intense soit-il. Dans cette fresque, il y a beau y avoir un haut et un bas, un commencement et une fin, ce qui ressort de la toile et ce qui vibre dans le paysage demeure sans rémission la mélancolie. Il n'y a rien de plus anodin et de plus stupide que de dire cette phrase « Ils ont eu la vie facile en exil ». Cette banalité, souvent, on accepte de l'entendre en guise d'excuse ou comme sa contrepartie du même tonneau. Ça a été pire pour ceux qui sont restés en Argentine. Et d'autres variantes de ces simplifications qui devraient nous indigner dans la mesure où elles comparent des situations qui ne sauraient l'être. Ces classifications lénifiantes du type exil, exil intérieur, allègent, pour ainsi dire, sans la délayer, la patte compacte, destructrice et écrasante de ces années-là, courant de 1974 à la restauration de la démocratie, sans compter les derniers sursauts du régime qui, aujourd'hui encore, sont synonymes de terreur. Donc vous êtes toutes les deux, vous parlez justement de la même chose. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a une dépolitisation. Finalement, ce qui vous blesse le plus, c'est que les raisons politiques de cet exil sont complètement occultées. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quelque part, la dictature triomphe.
Et je ne crois pas que ce soit comme ça. Non. Chez nous, à l'intérieur du pays, on parle très clairement de ce qui est l'exil politique. Le problème, c'est qu'il y a eu aussi une vie dans la clandestinité qui a été terrible et qui a été du même genre de répression et d'oubli et d'entierro, si se quiere, un entierro real. Eso ya lo voy a hablar en español, ¿no? Entonces a mí me parece que sí, hay una literatura. Yo ya escribí mucho sobre el exilio, gasté el exilio, me entregué a él con una fuerza enorme y yo creo que de ahí salió muchísimo. Fue una gran experiencia, como decía Mempo hoy, que es una especie de flujo que no termina, porque lo que he seguido escribiendo después tiene que ver con el exilio, siempre surge, ¿no? Ahora bien, yo creo que está claro cuál es el exilio político. No creo que de una gente que emigre a España o a Francia por razones económicas se piense que es un exiliado. Solamente como una especie de metáfora de la ausencia, pero no creo que sea confundido en este momento en la Argentina. Pero bueno, la experiencia de Clara es estar en España, haber permanecido en España, que eso es también un tema. Los que se han quedado, es algo, a mí me impresiona muchísimo, los que se han quedado me parece que tienen, bueno, no Clara, no quiero atribuirme, ya pero hay una especie de tierra de nadie que hace que cada vez más la gente que se ha quedado en el extranjero no quiera ir a la Argentina porque le produce muchísimo dolor y hay un distanciamiento muy, muy artificial respecto de eso. Es decir, lo que ya ven, porque yo escribí un libro cuando regresé, para saldar cuentas en ese momento. Yo creo que ahora ya no podría escribirlo. En ese momento yo tuve que decir lo que estaba viendo, pero ahora hay una situación de mucha perplejidad para el que vuelve. Por eso cuando alguien me dice ahora, amigos que después de vivir 30 años fuera, dicen, vuelvo a la Argentina, yo digo, bravo.
Je voudrais vous présenter Béatrice Duner, hein, qui interprète de.
Tout le monde comprend l'espagnol, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas?
Bon. On y va. Il n'y a personne? Alors, moi, je pense que j'écris de l'exil. J'ai beaucoup donné à l'exil. L'exil a nourri mon écriture et je pense que c'est une très grande expérience, comme le disait Mempo tout à l'heure, c'est-à-dire que l'écriture est toujours liée à ce flux intermittent. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, l'exil politique s'est perçu tout à fait clairement en Argentine. Pour les gens qui, par exemple, se rendent en France ou en Espagne pour y travailler, ce sont des exilés, certes, des exilés économiques. On parle d'immigrés, mais ce ne sont pas des exilés, sauf pour ce qui est du sentiment d'absence ou de séparation. Mais je pense que Clara parle à partir de son expérience et elle est restée en Espagne. Et je trouve que ça, c'est un sujet absolument passionnant, le sujet de ceux qui sont restés. Ça devrait être davantage exploré parce que finalement, on reste dans une sorte de no man's land. Ceux qui sont restés parce qu'il est très dur de revenir probablement en Argentine. C'est synonyme de trop de douleur. La distanciation que l'on peut acquérir ne peut être qu'artificielle. Moi-même, quand je suis rentrée, j'ai écrit un livre très très rapidement pour dire ce que je sentais, ce que je voyais au retour. Mais maintenant, bien plus tard, eh bien, ce que j'éprouverais, ce serait surtout une très grande perplexité. Alors quand des amis de l'exil de plus de 30 ans me disent « je rentre en Argentine, je n'ai qu'un mot », je dis « bravo ».
Et je peux reprendre ?
Bien sûr.
Et, en français, comment ça va ? j'ai voulu mettre l'accent dans ma génération. Et quand je suis arrivée en Espagne, j'avais 25 ans. Et je me suis mariée en Espagne et ma fille est née à un père espagnol. Le cas de ma génération, je pense que Néstor Ponce, c'est la même génération. Nous avons fait des familles dehors. Et alors, nous ne pourrons retourner comme les gens qui ont des autres histoires. Et c'est la génération qui a resté dehors. Ce n'est pas une décision, c'est la vie qui nous a menés à une histoire comme ça. Et nous sommes en général les militants de base des organisations politiques. Et je pense que si en Espagne, on dit exil à toutes les choses. Et en France, je pense que comme ça est. Comment se dit ça?
C'est comme ça.
C'est comme ça. J'étais l'année passée avec une professeure qui était très bien située en France. Et il m'a dit, dans cet exil, je dis, comment l'exil? Tu as venu, il fait 5 ans. Ce n'est pas l'exil, c'est l'émigration. Et si on quitte la place de l'exil, on quitte le sens politique de l'exil.
Alors, Elsa, vous êtes sur le domaine de la mémoire, et c'est ce dont parlait aussi Clara tout à l'heure. C'est-à-dire que cet exil, il n'a de sens aussi qu'à partir, il n'a de force qu'à partir du moment où il y a une mémoire, une conquête, une reconquête de la mémoire. Ça, vous explorez ça beaucoup dans vos livres, et notamment dans Luz. Bon, ce qui veut dire lumière, hein, donc ce prénom est quand même assez symbolique. C'est une femme donc, qui recherche dans ce livre, qui recherche la mémoire. Est-ce que vous pensez que justement cette reconquête de la mémoire, on peut parler aussi des femmes de la place de Mai, hein, qui sont sur justement les disparitions, reconquête de la mémoire, ne pas oublier, etc. Est-ce que vous pensez, en tout cas en Argentine, que la mémoire passe par les femmes? Est-ce que c'est une façon de materner quand même une histoire collective?
Bon, je crois que la résistance à la dictature en Argentine, surtout était les maires de la place de Mai. Ça, alors que quand on me pose la question pourquoi dans mon roman il y a le personnage le plus important sont des femmes, je dis que c'est une fidélité à l'histoire. C'est-à-dire il y a bien sûr beaucoup d'organisations, mais disons que les femmes ont fait un travail énorme. Et bon, c'est aussi, disons, le maire, le grand maire, etc. Mais pour prendre un peu ce qu'on vient de parler, je peux dire que ça m'a beaucoup aidé de ne pas être en Argentine pour pouvoir écrire sur ces sujets. Et c'était pas l'exil, parce que je suis allée en Espagne, disons, dans le 90, alors que c'était pas l'exil. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui étaient à moi et je sens qui m'a aidé beaucoup la distance, c'est-à-dire ne pas être là, dans cette société. C'était pas à l'époque parce que quelqu'un m'a dit on ne peut pas parler de cela, mais on ne parle pas de cela. Et même quand ce roman est sorti, qui a été publié d'abord dans d'autres pays que dans mon pays, quand je suis allée le présenter en Argentine, on me demandait pourquoi. Pourquoi tu... Comme si j'avais passé même... Disons, il y a une histoire un peu folle que je ne comprends pas. C'est comme si avant, j'étais écrivain et j'avais passé au journalisme. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais on l'a dit directement. C'est-à-dire, pourquoi tu t'occupes, pourquoi tu parles de cela? Et c'était curieux parce que j'avais déjà écrit pas mal d'essais. Mais la littérature, disons, la fiction politique... c'est pas, même si on a conquis beaucoup d'espace, disons les femmes maintenant, on est à la mode, on peut écrire sur n'importe quoi, mais disons que je crois qu'il y a quelque chose qui gêne et que c'est l'espace de la mémoire de la politique, disons. Et là, il y a quelque chose de pourquoi tu parles de cela et pourquoi ils disent journalisme, parce que c'est qui est même, je veux dire, troll pour ne pas dire d'autres choses, C'est-à-dire que quand ce roman est sorti en Argentine, a coïncidé avec la première fille qui a cherché ses origines elle-même. Alors, mais imaginez-vous qu'il y a tous les temps d'écrire un roman, après les temps de la publication, après tout ça. Ça s'est passé, disons, presque deux ans après. Et comme il a coïncidé, et ça sortait dans les journaux, elle dit, ah, mais c'est opportuniste, ton roman. Et alors, je dis, bon, peut-être c'est opportuniste. Mais je crois que quand même, il y a quelque chose qui... encore de... une certaine gêne. Parce que quand on parle, disons, il y a des témoignages, il y a des investigations, même s'ils sont des très bons investigations et des très très bons travails de journalistes et très courageux, comme Norma Morandini, par exemple. Mais quand on prend un personnage de fiction, c'est-à-dire qu'il y a un homme n'importe quel, et on parle pas seulement du bourreau, et d'un militant politique, sinon de n'importe qui. C'est-à-dire, c'est un thème qui nous concerne tous. Et ça, on ne le supporte pas. Je pense que ça va prendre un temps. On disait que c'est très tôt, ou que c'est trop tard, ou qu'on avait déjà parlé de... C'est comme si après... Roméo et Juliette, on ne peut plus parler de l'amour. Il y a beaucoup d'excuses. Mais je crois qu'il y a encore un problème... Peut-être c'est un peu plus large que l'histoire avec les femmes. Mais disons, si est une femme qui appelle, je ne sais pas si on dit appel à la mémoire, oui, c'est-à-dire oui, que... Oui,
qui cherche...
Mais qui ne veut pas, moi j'écris ça pas pour dire la vérité est ici ou est là. Je peux l'écrire après beaucoup, ça m'a pris à moi-même beaucoup de temps pouvoir l'écrire. Et ça s'est sorti, bon, quand j'étais loin. Et au bout de beaucoup de temps. Mais je n'ai jamais eu une réponse de pourquoi j'aime tellement ce thème.
Alicia, vous voulez répondre
Oui, je voudrais reprendre l'expression de Tuna Mercado sur la métaphore de l'absence. Contraposé d'une manière tranchante, exil politique et métaphore de l'absence. J'ai un sentiment très argentin d'absence, une espèce d'exil natal. En ce moment, je viens de faire un voyage en Ukraine pour retrouver le village natal de mes grands-parents paternels, juifs, qui ont émigré en Argentine. Et j'ai fait des recherches à Moscou pour retrouver le lien de mon père avec l'Internationale communiste. Et cela explique mon sentiment de no man's land natal. Je reviens à cela. Je me suis toujours sentie d'ailleurs étant en Argentine. Et quand je me suis exilée, si vous voulez, oui, puisque j'ai quitté l'Argentine en 1978, parce que je travaillais dans les journaux de l'opinion qui étaient intervenus par les militaires et parce que le directeur du journal était torturé et parce que j'étais entourée d'amis qui militaient et moi, je ne militais pas. Eh bien, à ce moment-là, je n'ai pas tranché non plus d'une manière, disons... Je n'ai pas dit que j'étais une exilée politique alors que j'aurais pu le dire, je ne l'ai pas dit. Et il y a des rythmes, dire bravo à quelqu'un qui rentre en Argentine, dire pourquoi tu ne rentres pas à quelqu'un qui reste. J'ai essayé de rentrer en Argentine, honnêtement, avec tous mes livres, ma fille et mes deux petites filles, maintenant adolescentes, et je n'ai pas pu rester en Argentine parce que c'était très difficile économiquement. Et là, je suis devenue, en rentrant en France, une immigrée économique. Et quels sont les rythmes? À quoi doit-on dire bravo? Qu'est-ce qu'on doit... Et pourquoi jusqu'ici, justement, à propos du temps dont parlait Elsa Osorio, elle disait que parler de ça, parler de ce qui nous fait le plus mal, de la dictature, lui a pris beaucoup de temps. Mon temps est venu, enfin, je suis dans ça. J'ose en ce moment écrire sur cela, je suis en train de le faire. Mais il y a une chose qui me préoccupe toujours dans les « il faut ». Il faut écrire sur ça, il faut être exilé politique, il faut définir clairement. Nous avons tous tellement souffert et nous sommes tous les Argentins, des descendants des gens qui avaient eux aussi dû quitter des pays. Bon, je pense que notre souffrance est à nous tous et que ce n'est pas la peine d'utiliser avec une frontière tranchante la souffrance de chacun.
Même pour vous vouliez intervenir.
Sí, yo quería hacer un comentario. Me parece interesantísimo este debate que nos toca tanto a todos. Cuando todavía estábamos en el exilio, año 82, cuando la guerra de Malvinas, yo comencé a escribir mi novela Santo Oficio de la Memoria, que es una narración sobre la inmigración argentina en boca de 24 mujeres de distintas generaciones de una misma familia. Este ejercicio que para mí fue mi ejercicio de escritura femenina, pero que al mismo tiempo era un ejercicio de memoria, yo pensaba que iba a ser, era una pretensión juvenil que tenía, que iba a ser una novela que iba a agotar el tema del exilio, de la memoria y todo esto. Claro, han pasado los años y cada vez que en distintos lugares, entre mujeres o aún con doble género, sale este tema, yo lo que estoy empezando a ver, propongo como una hipótesis, es que quizá lo que define al exilio y que unificaría, me parece, las distintas vivencias, es la marginación. Uh-huh. El exiliado es alguien que está fuera, está del otro lado de la frontera. Sea que uno sea por razón política, sea por razón de género, sea por razón de violencia, uno está fuera. Es decir, Clara y Ana Basualdo, pues una escritora que yo admiro profundamente, y Cristina Perigosi y tantas más, son exiliadas porque están fuera de la literatura argentina. Podemos decir que esto es injusto, estas son otras calificaciones, pero objetivamente están fuera, están en los márgenes. Esto pasa también dentro del país. Hay autoras y autores que también tienen su forma de marginación. Por ejemplo, una escritora como Libertad de Mitrópolos, que fue una escritora marginal y exiliada toda su vida, aunque nunca salió de la Argentina y murió en Argentina, pero era jujeña, era mezcla de indígena con griegos, no vivía en Buenos Aires, fue una gran escritora Libertad. Y era una exiliada. El concepto de exilio interior, que creo que fue Ricardo Pil el que lo puso de alguna manera, lo instaló, o Viña, no sé, bueno, ¿quién fue?
Liliana Hecker.
Ok, bueno, pero el concepto, no importa la paternidad o maternidad del concepto, digamos que la idea del exilio interior también remite a una marginación. Y yo creo que incluso estaba pensando ahora en este intercambio, yo trabajo con mujeres, o sea, toda la gente con la que yo trabajo, son mucha gente en la fundación y demás, trabajo con centenares de abuelas y trabajamos en barrios marginales solamente con mujeres. Una de las características es que los hombres no están, se han ido, o están deprimidos, o están borrachos, o están presos. No, de veras, esto sucede, es tremendo, pero en los barrios donde yo trabajo, créanme, que es realmente así. Y en realidad, esas personas, esas mujeres, son exiliadas. Son exiliadas, aunque no tienen, no sé si son políticas, literarias, pero sí, lo que define el exilio es la marginación. Esto es lo que quería decir, porque me empecé a dar cuenta ahora que me parece que ese es el elemento que nos diferencia. Digamos, cómo cada uno trabaje políticamente, las condiciones económicas. Es decir, el señor Palito Ortega, un conocido cantante argentino, vive con su familia maravillosamente en Miami desde hace muchos años porque él dice, bueno, ese no es un exiliado. Digo, ni siquiera es un marginal. Es un señor que eligió otro territorio para vivir y tiene todo el derecho del mundo. Que ahí creo que está el factor. ¿Dónde está el puesto de lo marginal? Y todos, todas aquí somos de alguna manera o hemos sufrido formas de marginación. Y por eso somos exiliados.
¿Puedo contestarle después a...? Yo también quiero contestarle. A mí me parece que, bueno, yo...
Peut-être commencer juste par la... Oui, par traduire même.
Oui, excusez-moi, j'interviens. J'interviens parce que je suis très touchée par ce débat qui se déroule et tout à fait intéressée. Moi, quand j'étais encore en exil, en 1982, c'était le moment de la guerre des Malouines, eh bien, j'ai entrepris de raconter l'histoire de femmes argentines, de 24 femmes d'une même famille, toutes générations confondues. Et cet exercice eh bien, a beaucoup fait appel à la partie féminine de moi. J'ai vraiment pratiqué une écriture au féminin et je pensais très naïvement que j'allais épuiser le sujet. Et puis les années sont passées et finalement, quand ce sujet refait surface, et surtout quand je suis avec des femmes, eh bien, je réfléchis à ce qui peut définir l'exil, le facteur commun, le dénominateur commun de toutes ces formes d'exil. Et je pense que c'est la marginalité, le fait d'être en marge. L'exilé, par définition, il est toujours dehors, quel que soit le motif de son exil. Il est exilé, par exemple, parce qu'il reste en dehors de la littérature argentine. Et même à l'intérieur, en fait, du pays, on peut bien sûr être exilé. J'en veux pour preuve l'exemple de Libertad Dimitropoulos, qui était une femme qui a vécu toute sa vie en Argentine, qui n'en est jamais sortie, mais qui était descendante d'indigènes, enfin de sang indigène et grec, et qui a été une très très grande écrivaine argentine, mais d'une certaine façon, elle a vécu son exil intérieur. Je ne sais plus de qui est cette belle formule, mais quelle qu'elle soit, on ne va pas se disputer, se chicaner sur la paternité de cette formule. Elle a vécu son exil intérieur par la marginalisation. Et j'y pense souvent parce que je travaille avec des femmes, essentiellement avec des femmes, des grands-mères notamment. Les hommes, je ne sais pas où ils sont partis, ils sont ivres, ils sont en prison, ils sont au chômage, je ne sais pas. Et donc je travaille en fait exclusivement avec des femmes. Et bien ces femmes qui sont à l'intérieur pourtant, ce sont des femmes exilées aussi, exilées, je ne sais pas, de la politique, de la littérature, peu importe. Et je crois que c'est cette marginalisation qui fait toute la différence. Parce que prenons le cas par exemple d'un certain Pablito Ortega, qui est un chanteur populaire en Argentine. Et bien ce monsieur vit avec sa famille à Miami. On ne peut pas parler d'exil, il a choisi de vivre ailleurs, c'est son droit le plus strict, voilà tout.
Bueno, yo quería decir que bueno, en este exagerado gesto de aprobar un regreso, era un mensaje velado aquí a mi amiga que está gestando un regreso a la Argentina y bueno, me parece bravo, ¿no? Que esos escritores que han estado afuera vuelvan al país. No es que yo diga il faut. De hecho, yo tengo un hijo que vive en México y no era tan joven ni de la generación. Yo tenía 30 años cuando llegué al exilio y con hijos chicos. Y como Mempo sabe, hay una especie de ruptura muy fuerte que se produce entre los hijos y los padres que regresan, porque los hijos ya tienen vidas propias. Entonces, bueno, no es que yo diga esto es un UCAS, hay que volver, no se me interprete mal, es a nivel simbólico que yo pienso que mucha gente necesita de esa lengua y que no pueden ir necesariamente todos los años a la Argentina. Y cada vez se va reduciendo más el aislamiento respecto de un país al que tendrían que darle una palabra, porque son escritores o son intelectuales, o en fin, no. Eso es para que tú sigas, ¿no?
Oui, je voulais expliciter un petit peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, qu'on ne se méprenne pas, c'était un message un peu voilé à l'intention de mon amie ici présente, qui médite apparemment, enfin, qui médite de revenir en Argentine. Alors, je disais bravo, mais je ne disais pas du tout il faut ou il ne faut pas. Moi-même, j'ai un fils qui habite au Mexique. Il faut dire que quand j'ai quitté l'Argentine, j'avais déjà 30 ans, j'avais des enfants très jeunes, en bas âge. Et ça aussi, c'est un problème, la rupture, en fait, entre les parents qui ne reviendront pas ou qui veulent revenir, les enfants qui ne veulent pas revenir, qui veulent rester là où ils sont. Et cela pose véritablement problème. Mais quand je disais bravo, ou il faut ou il ne faut pas, je parlais plutôt à titre symbolique.
Je voudrais dire juste une chose sur la parole qu'il faut donner au pays. Elsa Osorio a dit que le fait d'être loin de l'Argentine lui a peut-être permis de parler de cette fille qui découvre sa véritable identité. L'éloignement donne effectivement une vision autre. Je ne pense pas avoir pu parler d'Eva Perón, écrire sur Eva Perón si j'étais restée en Argentine. Et puis, il y a des moments où l'on s'est dit, bon, le No Man's Land est mon véritable pays, j'ai choisi mon pays dans l'étrangeté, dans être en marge aussi de mon pays. Et Et il y a des allées et devenues, et on se rend compte que finalement, on est divisé et on est aussi enrichi, multiplié, et qu'on a en même temps son propre pays et le pays d'exil. C'est ma situation aujourd'hui. Je ne me sens plus déchirée. Je vais très souvent en Argentine et je n'ai pas l'impression d'avoir refusé une parole à mon pays, mais bien au contraire, d'avoir pu lui donner une parole du fait même de le voir tragiquement de loin.
Alors, je veux répondre une autre fois à même pas. Et je pense que si nous parlons de l'exil, en sens général, l'écriture et l'exil, tout c'est l'exil moins Bush. Non, et aucune personne n'est au centre de toutes les histoires. Nous sommes toujours déplacés des histoires. Mais je pense que le point de l'exil, on doit parler sur eux. J'étais à l'Argentine, à une rencontre, tu as été avec moi, Tonuna, qui ont parlé de l'exil. Et il avait une vraie lutte avec des gens pleurant. C'est un point que ma génération doit parler. J'insiste au point de ma génération parce que je pense qu'il y en a des gens qui ont sorti de l'Argentine avec une œuvre créée déjà. Mais ma génération s'est formée dehors. Il y a une problématique spécifique. Et on n'a pas parlé de ça encore. On a parlé beaucoup de l'exil, mais il faut parler. Il fait pas mal parler des choses. Ça, c'est mon point sur mon papier aujourd'hui.
Elsa, finalement, par rapport à tout ce qu'on dit, votre personnage, Luz, c'est aussi une exilée politique de fait, puisque justement, cette dictature l'a exilée de sa propre famille.
Oui, elle l'a exilée même de sa propre vie, parce que mon personnage est une disparue qui a la vie. Alors qu'il y a comme beaucoup de jeunes, c'est-à-dire que qui sont vivantes, mais en même temps, ils ne savent pas qui ils sont. Et je crois, mais c'est des choses que j'ai pensé beaucoup après d'écrire. Je n'ai pas du tout réfléchi. C'est ce que je veux dire pendant l'écriture du roman, que peut-être c'est une façon de dire à l'autre, que l'autre génération, que j'aimerais, s'il y a un désir là, un désir un peu caché, c'est que l'autre génération, la génération de Luz, de mon personnage, nous cherche à nous. Parce que là, il y a deux voix, disons, la voix de grand-mère et la voix de la fille, de cette fille. Et au milieu, bon, il y a ma génération, qui est l'unique personnage à qui, moi, je ne lui donne pas la voix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un narrateur de la mère de Luz, parce que je sens là que je n'ai pas le droit de le donner, parce que ses voix sont tuées. Ses mères sont tuées. Alors c'est très difficile de donner un témoignage, disons. Difficile, je ne veux pas. C'est-à-dire que je l'ai fait exprès. Mais en même temps, ces deux voix, la voix de la fille et l'autre voix qui représente la grand-mère, tout ça, m'ont beaucoup aidé, disons, avec la fille. Je me posais des questions que je ne m'ai jamais posées, comme génération, je dis. Je ne dis pas moi, je dis que peut-être une autre génération ne s'est pas posée. Et aussi, m'a donné un espoir que j'avais déjà perdu. Alors que je peux dire que ce roman, je l'ai. Me rend espoir, m'a fait du bien. Et aussi, disons, ces trois femmes m'ont donné un certain courage. Et maintenant, l'histoire a dit que le personnage avait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation, d'après ce thème-là, est beaucoup mieux. En Argentine, les choses avec la justice ont beaucoup, beaucoup changé. Les choses de droits de l'homme. Et alors que bon, je pense que j'ai une confiance énorme dans la littérature. C'est surtout parce qu'on écrit des choses qu'on ne sait pas du tout, qu'on ne comprend pas beaucoup les histoires. Et quand on les écrit, je ne le dis pas comme une chose thérapeutique, sinon comme une chose de la mémoire d'une société. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir parle de ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de silence.
Aussi, par le biais de la fiction et du roman.
Oui, je pense. Peut-être c'est ce que je disais avant, que je ne comprends pas pourquoi, mais qu'il y a comme une certaine gêne, c'est-à-dire comment... Parce que c'est vrai, c'est aborder des choses... terrible.
Oui, mais si vous les abordez par le biais d'un document ou d'un essai, finalement, ce que vous dites, c'est que ça passerait mieux. C'est-à-dire que
ah oui,
la réalité...
Passe. Oui, parce qu'il a un autre nom, c'est-à-dire c'est reconnu, c'est une telle. Pourtant que la fiction, même quand on écrit, on découvre des choses. Quand on se met dans la peau des personnages, on découvre des choses. Mais la fiction, et surtout la fiction sur des gens, disons, Normand, c'est ça ce qui inquiète beaucoup. Parce que si j'ai un prostitué, par exemple, une fille qui n'est pas du tout cultivée, on peut se dire pourquoi elle peut sentir ça et pas moi, pourquoi elle s'est rendue compte et pas moi. C'est pas une question, disons, des militants, bien sûr qu'il y a, bon, il y a une posture, parce que c'est impossible de ne pas l'avoir quand on écrit. Mais disons qu'il y a beaucoup de voix. Et alors, c'est ça peut-être qu'inquiète, ou je ne sais pas, mais de toute façon, je ne dis pas qu'inquiète tout le monde. Je dis que pour le moment, la fiction, quand on aborde d'une façon assez directe, mais par la fiction, ce thème-là, il y a encore un certain rejet. Comme s'il fallait faire beaucoup de... disons des tours, de tournages, bon, de choses comme ça, pour pouvoir le toucher, parce que sinon c'est comme il y a quelque chose, un peu ce qu'a je ne sais pas si c'est toi qui a dit, il faut. Il faut faire, quand on écrit, il faut faire ce qu'on a, surtout ce qu'on a envie de faire, ce qu'on sent qu'on doit le faire comme ça. Et alors, si on dit, bon, on peut toucher ce thème de côté, ou comme ça, on les touche comme on a vraiment. Et après, tu travailles ton texte comme n'importe quel texte. Mais toujours, il y a un haut. J'ai écouté, peut-être parce que je ne suis pas à l'Argentine, et ça, c'est. Je suis un peu d'accord sur ce que dit Clara, c'est-à-dire que tu es dans un autre pays, et d'une certaine façon, tu perds, je ne sais pas quoi, mais tu perds. Mais ça ne m'intéresse pas du tout, c'est-à-dire la lecture en livre du lecteur. Et c'est, on écrit parce qu'on veut être lu. Et c'est de ce côté qui est le plus important, et de ce côté-là, j'ai reçu pas mal de choses vraiment... très, très touchant. Alors, je ne veux pas me préoccuper pour ce qu'on me dise, si c'est très tôt pour parler de cela. Quand il y a une fille qui me dit, je me mis à chercher mes origines, et elle et lui aussi, il y en a deux, qui sont allés chercher leurs origines.
Après avoir lu...
Ouais. Et alors, ça m'est absolument égal, et les autres choses, disons. Ouais.
Est-ce que vous avez des questions à poser à nos écrivains ?
Ça marche pas. Ok. Non, comme je suis exilée aussi, je suis dans la musique. Ça m'a beaucoup touchée, tout ce que vous avez parlé, et j'ai beaucoup ressenti tout ça. Vous avez très bien exprimé, très à fond. J'ai beaucoup d'analogies avec des similarités avec Alicia, parce que mon père était né en Ukraine, et ma mère en Roumanie, je suis première génération argentine. Je veux dire, dans ces moments qui ont été touchés pour tous ce que vous avez parlé, l'exil, moi je suis exilée de l'Argentine avant, et après des États-Unis où j'ai fait mon master de doctorat en composition musicale. Est-ce que, et c'est la chose que j'ai beaucoup travaillé les dernières années dans ma musique, et dans les masterclass que je donne dans le monde, dans l'influence des merveilles dans ma musique, est-ce que on n'est pas restimulé dans cet exil, tous de l'Argentine, tous, d'un premier exil qu'on a eue et que c'est la chose que j'ai beaucoup dédiée dans ma recherche. Nous sommes exilés, pour commencer, nous sommes exilés du paradis.
D'autres questions ou d'autres interventions, pas forcément des questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce que vous avez déjà à ce que vous avez dit?
Non, le problème c'est que j'avais écrit un texte et Béatrice l'a lu et elle voulait que je le lise, mais ce n'est pas, me he centrado en la idea de la figura femenina. No tiene nada que ver con la discusión del exilio. Uh-huh. Es una herencia de exilio la que yo iba a leer, pero no sé si hay tiempo.
Je me suis centrée en fait sur la figure de la femme. Ce n'est pas un lien direct avec l'exil, mais évidemment ça peut naître de l'exil. Mais je ne sais pas si nous avons encore le temps de lire ce petit texte.
On va lire ce texte et puis ça sera notre conclusion. Voilà. Ouais. Très bien.
D'accord. Se llama Ramona, tejedora y comandante. En la fotografía, el pasamontañas deja ver sus ojos, vivaces, profundos, tristes. Se podría improvisar un haz de adjetivaciones, ojos que delatan condición, historia, valores, sentimientos, como muchos otros ojos de los zapatistas. No hay otro modo de hablar de unos rostros tapados. Hay que resaltar el fuego, la ternura o la ironía de una mirada. ¿Acaso su impenetrabilidad y contentarse con aproximaciones subjetivas de ese tipo? Los ojos de Ramona, comandante zapatista, podrían llegar a decir todo eso precisamente porque en ellos es difícil no depositar una noción histórica, la de los conquistados y sometidos desde hace 500 años, la de los sublevados ahora, la de las insurrectas hoy. Una mujer pequeña con una delgadez que la ropa ha de estar encubriendo, encabeza con otros la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994. No se la oye hacer ningún discurso. El silencio es también una forma de la comunicación, un arma inexplorada. Pero su sitio en la cúpula del Comité Clandestino Revolucionario Indígena como comandante y en las Jornadas por la Paz y la Reconciliación en Chiapas como delegada elegida por las comunidades a fines de febrero de ese año, se afianza en esos primeros meses de la guerra hasta convertirse en símbolo.
Le texte est intitulé Ramona Tisserande et commandante. Dans la photo, le passe-montagne laisse voir ses yeux. Est-ce qu'ils sont vifs, profonds, tristes? On pourrait improviser tout un faisceau d'épithètes. Ce sont des yeux qui trahissent la situation, l'histoire, les valeurs, les sentiments, comme beaucoup d'autres yeux chez les zapatistes. Il n'y a pas d'autre façon de parler de ces visages couverts. Il faut insister sur le feu, la tendresse, l'ironie d'un regard, peut-être même sur l'impénétrabilité, et se contenter d'approximations subjectives de ce genre. Les yeux de Ramona, commandante zapatiste, pourraient dire tout cela, précisément parce qu'il est difficile d'en déduire une notion historique impressionnante, celle des conquis et des soumis depuis 500 ans, celle des révoltés d'aujourd'hui, celle des insurgés d'aujourd'hui. C'est une femme petite, dont la maigreur est masquée par les vêtements. Elle mène, avec d'autres, la révolte de l'armée zapatiste de Libération nationale le 1er janvier 1994. On ne l'entend jamais faire aucun discours. Le silence est aussi une forme de communication, une arme inexplorée. Mais sa place au sommet du comité clandestin indigène en tant que commandante et aussi pendant les journées pour la paix et la réconciliation au Chiapas, comme déléguée élue par les communautés, fin février de cette année, trouve aussi sa source dans ses premiers mois de la guerre, jusqu'à devenir un symbole.
Pero hay que bajar de esos ojos sin rostro y detenerse en el huipil que Ramona lleva en forma de blusa, densamente labrado, hasta apenas unos 10 centímetros debajo de la cintura que una faja ciñe. La falda, llamada enredo, es amplia, de algodón azul oscuro, y deja ver las uniones de los paños o lienzos, unos bordados que suelen aumentar de tamaño hasta ocupar casi toda la prenda. Por la densidad del ornato, se diría que la comandante zapatista ha elegido un huipil ceremonial, uno de los que suelen tejer las tzotziles del pueblo magdalenas para vestir a los santos y a la Virgen en la iglesia de Santa Marta. Pero no, aunque por su factura parezca de reina, el suyo es el huipil rojo y negro de las mujeres de pueblo, el de diario que se ve en el mercado de San Andrés Larrainsar los domingos, en la plaza de San Cristóbal de las Casas, junto al convento donde se juntan las tejedoras y en otros pueblos de la región. En el arte de esos huipiles hay que precisar bien los términos. No se trata de un bordado con hilo y agujas sobre una tela, sino que el diseño surge del tejido mismo, entramados los estambres de colores en una urdimbre, fundado en la materia misma de la obra de telar, hasta merecer dejar la designación bordado y sustituirla por la de brocado. Minucias, pero no tanto. ¿Acaso da lo mismo decir temple que témpera, óleo que acrílico, yeso que piedra, hierro que mármol?
Mais il faut peut-être regarder un peu plus bas que ses yeux sans visage et arrêter son regard sur le huipil que Ramona porte en manière de blouse. C'est un vêtement donc qui est extrêmement ouvragé, à tel point qu'il ne ménage qu'à peu près 10 cm autour de la taille, elle-même enserrée dans une large ceinture de tissu. La jupe, que l'on appelle enredo, est très ample, en coton bleu foncé, et on voit les coutures entre les divers pans de tissu brodés et surbrodés jusqu'à ce qu'ils occupent la presque totalité de tout le vêtement. Ces ornements sont si denses qu'on dirait presque que la commandante zapatiste a choisi de porter un huipil de cérémonie, de ceux que les tzotziles, les femmes tzotziles, tissent au village de Magdalenas pour en revêtir les statues de saints et de la Vierge à l'église de Sainte-Marthe. Mais non, pas du tout. Bien que sa facture paraisse quasiment royale, ce n'est que le huipil rouge et noir que les femmes du village portent tous les jours. Ce huipil que l'on voit au marché du dimanche à San Andrés de la Reina, ou alors sur la place de San Cristóbal de las Casas, près du couvent, où se rejoignent les tisserandes, et aussi dans d'autres villages de la région. L'art de ces huipils est très particulier. Il faut bien peser les termes lorsqu'on le décrit. Il ne s'agit pas du tout d'une broderie faite au fil et à l'aiguille sur un tissu. Non, en fait, le dessin fait partie de la trame, se fonde dans la matière elle-même, au point qu'il faut cesser de parler de broderie pour parler de brocart. Vous me direz que ce sont des détails ? Non, pas tant que ça. Est-ce que l'on confond l'aquarelle et la tempéra, l'huile et l'acrylique, le plâtre et la pierre, le fer et le marbre ?
Durante el llamado día, aguantan todavía.
¿Vous supportez encore?
Durante el llamado día primero, cuando se alzan en armas los zapatistas, un periodista del diario La Jornada habla con una de las combatientes. ¿Me podría platicar del ESLN? ¿Cuál es su experiencia hoy, usted como mujer armada que hoy ha tomado la plaza de San Cristóbal? No, no lo explique. Vayan a mirar. El letra allá, responde una mujer joven en un incomprensible castellano. Vayan a mirar a letra, allá en la pared. Ahí están las demandas, en la pared, sí, ya lo escribimos. Pared aquí, en la pared, sí. Las leyendas en la pared dicen, queremos tierras, queremos buena alimentación, queremos vivienda digna, pan, techo, tierra, vivan nuestros grupos caídos, muere el ejército de la burguesía, queremos comida, muera la burguesía, viva los pobres. Se equivocaron, no somos ángeles, somos el ejército zapatista de liberación nacional. Aquí estuvieron los hijos del pueblo, viva el ESLN, muera el gobierno.
El periodista leyó las leyendas en la pared. Yo quiero leerlas en el huipil de Ramona.
Pendant ce que l'on appelait le premier jour, c'est-à-dire le jour où les apatistes ont pris les armes, un journaliste de La Jornada, un journal mexicain, parle avec une des combattantes. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu ce dont il s'agit, ce qu'est cette armée zapatiste de libération nationale, et quelle est votre expérience aujourd'hui pour vous en tant que femme prenant les armes et qui avait remporté la place de San Cristóbal? Non, je n'explique pas, dit cette femme jeune en espagnol assez peu compréhensible. Allez voir l'être là-bas, là-bas sur mur. Ah bon, c'est là-bas que vous avez mis vos revendications, sur le mur? Oui, c'est déjà écrit. Mur, là-bas. Sur le mur? Oui. Alors, les légendes que porte le mur, les slogans du mur disent ceci. Nous voulons des terres, nous voulons de meilleurs aliments, nous voulons un logement digne, nous voulons du pain, un toit, de la terre. Que vivent nos groupes tombés et morts à l'armée de la bourgeoisie. Nous voulons manger, morts à la bourgeoisie, vivent les pauvres. Vous vous êtes trompés, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes l'armée zapatiste de libération nationale. Ici, il y avait les enfants du peuple. Vive l'armée zapatiste et mort au gouvernement. Le journaliste a lu toutes ces revendications sur le mur, mais moi, je veux les lire sur le huipil de Ramona.
Je vais saltar un poquito. Ramona, a partir de ahí, ¿no?
Vale.
Bueno, llego a confirmar que Ramona era tejedora. Ya me lo imaginaba, ponerse un pasamontañas con un huipil tan sobrecargado, más allá de la construcción paradójica que ambas prendas instauran, no es una decisión gratuita, aunque parezca involuntaria. El huipil es tan significativo como la máscara, revela lo que esto oculta. La había imaginado sentada en el suelo, erguida sobre sus talones, con el telar atado a la cintura, el haz de urdimbre amarrado a un tronco de árbol, tal vez una ceiba, el árbol que suele proteger con su sombra las reuniones de mujeres, y sus manos pasando de un lado al otro la lanzadera, apretando la trama tan densa y compleja como la simbología que despliega. No solo es tejedora, sino que piensa como tejedora. Cuenta una de sus exégetas, ¿no?, que escribió la historia de ese movimiento, que a Ramona le costó mucho que la comunidad la reconociera y que finalmente en una asamblea representativa las mujeres la eligieron para formar parte del Comité Clandestino Revolucionario por su trabajo organizando y defendiendo a las tejedoras.
Bon, j'abrège un petit peu, disons que dans le cours du temps, j'ai appris que Ramona était tisserande. Et en fait, cela ne m'a pas surprise, je l'imaginais bien. Parce que mettre un passe-montagne sur un huipil, finalement aussi orné, bien au-delà de l'interprétation paradoxale que cela peut susciter, implique une décision gratuite, même si elle est involontaire. Le huipil, en fait, est aussi signifiant qu'un masque. Il révèle ce qu'il cache. Je me suis imaginé Ramona assise par terre, bien redressée sur ses talons, avec son métier à tisser attaché à la taille et les chevaux de fil multicolore amarrés à un tronc d'arbre. Peut-être était-ce un ceiba, un de ces arbres qui ont pour mission de protéger de leur ombre les réunions de femmes. Et j'ai imaginé ses mains qui passaient et repassaient la navette en appuyant sur la trame si dense et si complexe comme la symbologie qui s'y déploie. Non seulement elle est tisserande, mais elle se pense comme tisserande, elle pense comme une tisserande. Et Guillaume Roviga, qui est une de ses exégètes, qui a écrit sur elle, dit que Ramona a eu beaucoup de peine à être reconnue par la communauté, que finalement c'est au cours d'une assemblée représentative que les femmes l'ont élue pour faire partie du comité clandestin révolutionnaire, en raison, je cite, de son travail à l'organisation et à la défense des tisserands.
Ramona, cabeza principal de la comandancia, se enfermó gravemente meses después. La presión nacional e internacional y una relación de fuerzas favorable al ejército zapatista en ese momento permitió que fuera trasladada legalmente a un hospital. Reapareció en febrero de 1995. Nuestro movimiento es indígena, dijo Ramona entonces en un video que pasó por la televisión en sus noticieros internacionales. Empieza hace muchos años para decirle al mundo que los campesinos de Chiapas sufrimos hambre, enfermedades. Estoy enferma, quizás muera pronto. Muchos niños, mujeres y hombres también están enfermos. Tenemos hambre, nuestra comida es a base de tortillas y sal, comemos frijol cuando hay, casi no conocemos la leche ni la carne. Nos faltan muchos servicios que tienen otros mexicanos.
Ramona, une des principales commandantes de l'armée, est tombée gravement malade quelques mois plus tard. La pression nationale et internationale qui régnait à cette époque et un rapport de force qui a été favorable à l'armée zapatiste à ce moment-là a permis de la faire hospitaliser légalement. Elle a refait surface en février 1995 après l'offensive militaire contre les zapatistes. Notre mouvement est indigène, dit Ramona à ce moment-là, dans un film vidéo que la télévision a passé très souvent au cours de ses journaux dans la rubrique internationale. J'ai commencé... Il y a très longtemps que je dis au monde combien les paysans des Chiapas souffrent de la faim et de la maladie. Je suis malade, peut-être mourrai-je bientôt. Beaucoup de femmes, d'enfants, d'hommes sont également malades. Nous avons beaucoup de maladies, nous avons faim. Nous ne mangeons guère que des tortillas et du sel, parfois des haricots, quand il y en a. Nous ne connaissons ni le lait ni la viande.
No se murió. La palabra rendir o rendirse no existe en Tzotzil ni en Tzeltal. Nadie recuerda tampoco que esa palabra existe en Tojolabal y en Chol. Esas son las lenguas que hablan en esa región. Salto todo esto porque ya estamos hartos.
No, qué
lindo. Rombos que encierran la tierra y el cielo. Líneas en forma de serpiente que significan la fertilidad de la naturaleza. Otras líneas verticales referidas al surgimiento del mundo, unos sapos que son los músicos de la lluvia, la mariposa en el centro de los clásicos rombos del diseño tzotzil que representa al sol. La cosmogonía es compleja y hermética, pese a su cercanía con la naturaleza, los astros, la vida y la muerte, la tierra y el cielo. Cuesta entenderlo, pero las vestimentas de los mayas tienen tanta importancia como el concepto del número en su sistema matemático o como su idea de la rotación de los astros en su astronomía. Son sustrato, configuración mental, forma del conocimiento. Ramona, cuando teje, actualiza en ese gesto toda una cultura que solo persistiendo en estas prácticas como el tejido ha logrado sobrevivir. Concentrada en el diseño, en la cuenta de hilos, en la elección del color, la tejedora sabe que esa prenda es la marca de su comunidad y una tarjeta de intercambio con los otros pueblos de la región, que esa prenda tiene un lenguaje que hablará por ella y por su silencio. Uno de los signos de la invisibilidad de las indígenas, que esa práctica de tejer es la producción de un objeto, pero que también y sobre todo una ceremonia sagrada que la liga a sus antepasados.
Mais Ramona n'est pas morte. Le mot être vaincu ou se rendre n'existe pas en Tzotzil ou en Tzeltal. Personne ne se souvient non plus que ce mot existe en Tojolabal ou en Chol. Dit Marcos dans une de ses lettres ouvertes. Et les commandants le confirment après avoir fait des recherches exhaustives dans leurs langues respectives. Ramona tisse des losanges qui enferment la terre et le ciel, des lignes torsadées en forme de serpent qui signifient la fertilité de la nature, d'autres lignes verticales qui parlent du surgissement du monde, et aussi des crapauds qui sont les musiciens de la pluie, des papillons au centre de ces losanges classiques des tissus tzotzil qui représentent le soleil. La cosmogonie en est très complexe et hermétique, malgré le fait qu'elle soit très proche de la nature, des astres, de la vie et de la mort, de la terre et du ciel. On a du mal à la comprendre, mais les vêtements des Mayas ont une grande importance, autant d'importance que le concept des nombres dans leurs mathématiques, ou leur idée du tournoiement des astres dans leur astronomie.
C'est le substrat, la configuration mentale, une forme de connaissance. Ramona, lorsqu'elle tisse, actualise par ce geste toute une culture et qui ne peut subsister qu'en maintenant ses pratiques, comme par exemple le tissage. Elle se concentre sur le dessin, sur le comptage des fils, sur le choix de la couleur. C'est ainsi que la tisserande sait que ce vêtement qu'elle tisse est la marque de sa communauté, une monnaie d'échange avec les autres peuples de la région. Son habit a une langue, il parle pour elle, il parle pour son silence. C'est un des signes de l'invisibilité des indigènes. Cette pratique du tissage, c'est la production d'un objet, mais c'est aussi et surtout une cérémonie sacrée qui la lie à ses ancêtres.
Pero hay un huipil que Ramona no quiso tejer. Dicen, ya hay leyenda, que no aceptó que le impusieran novio o esposo. No hiló el algodón más fino ni preparó los tintes más puros para su huipil de novia. No quiso una boda concertada. No soñó con ponerse uno de esos huipiles extremos por su belleza, blancos, con alguna figura de ornato en la parte delantera que simboliza el cosmos que la niña alcanza por el hecho de convertirse en mujer. Un tránsito que tejen también las madres y las abuelas, como un acta entrelazado con plumas de pájaros. Ramona no quiso hilar ese hilo ni montar esa urdimbre y se fue a la montaña a decir basta. Prefirió cambiar su labor por el punto séptimo de la ley revolucionaria de las mujeres que tanto revuelo provocó en aquella asamblea histórica evocada por el subcomandante Marcos. El inciso ponía en cuestión un atavismo de la propia comunidad indígena. Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. No era una demanda al mal gobierno, como le dicen, ni al poder, ni al partido en el poder. Era una reivindicación interna vital que solo podía haberse gestado y emergido a la superficie por la índole del movimiento zapatista, un tipo de insurgencia libertaria que rompe hábitos y subvierte esquemas.
Mais il est un huipil que Ramona n'a jamais voulu tisser. On dit, car déjà les légendes courent sur son sujet, qu'elle n'a jamais accepté qu'on lui impose un fiancé ou un époux. Elle n'a pas filé le coton le plus fin ni préparé les teintures végétales les plus pures pour son huipil de mariée. Elle n'a pas voulu d'un mariage arrangé. Elle n'a jamais rêvé de mettre un de ces huipils extrêmes par leur beauté, tout blanc, avec une figure d'ornement devant qui symbolise le cosmos que la jeune fille atteint par le seul fait qu'elle devient une femme. Un passage que tissent également les femmes et les grands-mères, comme pour en rendre compte, et qui est entrelacé de plumes d'oiseaux. Ramona n'a pas voulu filer ce fil, ni monter cette trame. Elle a préféré partir dans la montagne pour dire « ça suffit ». Elle a préféré à son travail le point 7 de la loi révolutionnaire des femmes qui a provoqué de tels remous au cours de cette assemblée historique évoquée par le sous-commandant Marcos. Cet alinéa remettait en question un atavisme propre à la communauté indigène. Les femmes ont le droit de choisir leur compagnon et de ne pas être obligées par la force à contracter le mariage. Ce n'était pas une revendication à ce mauvais gouvernement du Mexique, ni au pouvoir, ni au parti au pouvoir. C'était une revendication interne, vitale, qui n'a pu naître et émerger jusqu'à la surface que grâce au mouvement zapatiste. Un type d'insurrection libertaire qui casse les coutumes et subvertit les schémas.
Merci tout le monde. Merci.